Albert Sim, récréation littéraire, Balzac. Nous avons vu les poètes dits symbolistes s'efforcer de se rendre obscurs et incompréhensibles pour attirer l'attention et l'admiration du public. Honoré de Balzac ne dédaignait pas d'user de cet antique procédé et il n'en faisait pas mystère. Le dessinateur Bertal, qu'un éditeur avait chargé des illustrations de la Comédie humaine, se trouvant embarrassé dans cette tâche par des phrases plus ou moins ténébreuses, eut recours à l'auteur et l'interrogea. Bertal lui-même rapporte ainsi cette conversation. « Mon cher maître, voici un passage que je ne comprends pas très bien. » Balzac prit le livre, lut l'endroit désigné et se mit à rire. « En effet, dit-il, c'est du galimatias, mais c'est voulu. » « Comment voulu ?»« Parfaitement. Vous entendez bien, mon cher Bertal, que si le public n'était pas arrêté de temps en temps par quelques phrases bien enchevêtrées ou quelques mots très hérissés, il se croirait aussi malin que l'auteur qu'il lit. Tout ce qui est clair lui paraît trop simple, facile. Il se figure, le naïf, qu'il en ferait autant. Mais il ignore ce satané public. Que ce qu'il y a de plus difficile, c'est d'être simple. C'est pourquoi je saupoudre quelquefois mes romans d'une bonne petite obscurité, afin que le bon lecteur se prenne la tête à deux mains et dise « Je ne comprends pas, pas du tout. » Ça me dépasse, sapristi, tout de même, comme ce Balzac est fort. Mais à côté de ces imbroglios voulus, on rencontre chez Balzac plus d'une tare ou d'une bizarrerie involontaire. Dans « Splendeur et misère des courtisanes », il nous montre, chose merveilleuse sans doute, un priseur qui prend son tabac par le nez. Le faux officier de paix en l'achevant de humer sa prise par le nez. Dans « La cousine bête », un commissaire de police répond silencieusement « Elle n'est point folle ». Mais ce n'est là sans doute qu'une faute d'impression, il faut lire sentencieusement. Dans le même roman, le critique Émile Faguet relève cette phrase et la cite comme un exemple de métaphore à la fois vulgaire et prétentieuse. La bienfaitrice trempa le pain de l'exilé dans l'absinthe des reproches. Le Lys dans la vallée, ajoute Faguet, est un prodige de pathos et de phébus. Encore du pathos et de l'amphigourie. En achevant d'embrasser par sa profonde intuition les misères que réveilla cette idée mélancolique, il, le meurtrier, jeta sur Hélène un regard de serpent et remua dans le cœur de cette singulière jeune fille un monde de pensées encore endormies. Et cette drôlerie dans l'histoire des 13, Jules, seul dans une calèche de voyage, lestement mené par la rue de l'Est, déboucha sur l'esplanade de l'Observatoire. Dans le même ouvrage, nous voyons une jeune fille qui ignore l'art de se teindre et dont cependant les cheveux changent de couleur. Ils sont tantôt cendrés, tantôt noirs. Et ses yeux qui semblent avoir des oreilles dans l'envers de l'histoire contemporaine. Tout à l'heure, Balzac nous a fait voir un individu lançant sur une femme un regard de serpent. Bien dans les Chouans, il nous montre un de ces personnages qui jette sur sa maîtresse un coup d'œil aussi noir que l'aile d'un corbeau. Dans le même roman, qui date de la jeunesse de l'auteur et est fréquemment mal agencé et obscur, nous voyons l'héroïne, Marie de Verneuil, sortir d'une affreuse chaumière d'un taudis où gens et bestiaux vivent en commun. Puis, par une singulière inadvertance, ce taudis se trouve subitement dans la même page et quelques lignes plus bas, transformé en salon. Tout à coup, Mademoiselle de Verneuil rentra dans le salon. Et cet amoureux, qui pour prouver à sa maîtresse combien violente sa passion, saisit dans le foyer un bout de tison, un charbon ardent, le garde et le serre dans sa main, sans paraître souffrir de cette brûlure, sans même s'en occuper ni s'en soucier. « Mais jetez donc ce feu, vous êtes fou, ouvrez votre main, je le veux !» lui crie sa maîtresse, qui réussit enfin à ouvrir cette main. Oh, je sais bien que Monsieur Cévola et d'autres ont accompli cet exploit. N'importe. Dans la muse du département, Balzac met en scène une soubrette qui, à l'aide d'un mouchoir, bande solidement les yeux à l'un des personnages de façon qu'il ne puisse voir où elle va le conduire. Elle lui fait ensuite cette étrange recommandation. « Veillez bien sur vous-même. Ne perdez pas de vue un seul de mes signes. » L'inadvertance, à peu près comparable à celle que nous offre John Lemoine dans le journal des débats, le roi de Hanovre, aveugle et souffrant de voir son royaume incorporé dans la Prusse, voir avec les yeux de l'esprit, il est vrai, et à celle aussi que nous rencontrons chez Émile Pouvillon, où Jim Libre, un honnête aveugle, envoie un regard mélancolique à une bouteille vide. Au lieu d'un aveugle qui voit clair, c'est quelquefois un muet qui prend la parole. Monsieur le grand rabbin de France, Isidore, qu'une récente attaque de paralysie condamne au mutisme, a voulu en cette occasion mêler sa voix aux prières adressées à Dieu à l'intention de Moses Montefiore. La dédicace de la courte étude de Balzac, intitulée « La Bourse », débute ainsi. N'avez-vous pas remarqué, mademoiselle, qu'en mettant deux figures en adoration aux côtés d'une belle sainte, les peintres ou les sculpteurs du Moyen-Âge n'ont jamais manqué de leur imprimer une ressemblance filiale? Comme les figures ainsi placées aux côtés des saints et des saintes, ces figures de donateurs sont d'ordinaire celles d'un père et de ses fils, d'une mère et de ses filles. Cette ressemblance est toute naturelle et de rigueur en quelque sorte, et les artistes ne pouvaient manquer de l'exprimer. Dans le Cousin Ponce, Balzac parle d'un admirable éventail divins chefs-d'œuvre que Louis XV a bien certainement commandé pour Madame de Pompadour. Watteau s'est exterminé à composer cela, ajoute-t-il par la bouche du vieux Ponce. Or, Watteau est mort en 1721, l'année belle où même où la belle marquise venait au monde. Un rossignol va se poser sur l'appui de la fenêtre, prétend Balzac dans la peau de chagrin. Un rossignol qui se pose sur une fenêtre, oh, cela ne se voit pas tous les jours, ni même toutes les nuits de mai. Quel plaisir d'arriver couvert de neige dans une chambre éclairée par des parfums, lit-on dans le même roman. Et dans la physiologie du mariage, nous sommes amoureux à 20 ans et nous cessons de l'être à 50. Pendant ces 20 années, et dans les petites misères de la vie conjugale, une amusante phrase que je me borne à indiquer, le diable aime surtout à mettre sa queue. Alphonse Karr, qui était très ferré sur l'horticulture, qui a même exercé la profession de jardinier fleuriste à Nice et à Saint-Raphaël, a plus d'une fois relevé dans ses guêpes les erreurs commises par les romanciers, ses confrères, dans leur description des fleurs. Ainsi, il reproche à Balzac ces azalées qui grimpent et tapissent les maisons, à Jules Janin son œil est bleu, et à George Sand ses chrysanthèmes bleus, etc. Les contes drôlatiques passent, et peut-être avec raison, pour le chef-d'œuvre purement littéraire de Balzac. C'était la vie de Barbet de Revilly, et l'opinion de Balzac lui-même. Malgré l'insuccès complet de ses contes lors de leur apparition, il croyait qu'à défaut de ses autres œuvres, il suffirait pour le sauver de l'oubli. Or, si habile et si savant que soit le style archaïque de ses contes, il est des endroits qui trahissent l'époque moderne. Celui-ci, par exemple. Ce grand et noble curé n'était pas fort que de là. Ne pas que, dans le sens actuel, n'était pas fort seulement que de là, est une locution illogique, fautive et moderne. Elle n'apparaît dans notre langue que vers la fin du XVIIIe siècle. voir ci-dessus préambule, et littré remarque ne pas que ou ne point que, anciennement équivalait à ne que, le mot pas ou point étant explétif. Et ne l'auront point vu obéir qu'à son prince. Corneille, Horace, acte 3, signifie, et ne l'auront vu obéir qu'à son prince, et non, et ne l'auront vu point vu obéir seulement à son prince. Une particularité qui a droit de surprendre les lecteurs de la comédie humaine, particularité étonnante chez un écrivain qui s'est tant occupé d'affaires litigieuses et de questions judiciaires, c'est que Balzac, bien qu'il ait débuté par être clair d'avoué, n'avait en 1845, à l'âge de 46 ans, jamais entendu plaider. Jamais donc serait-on en droit d'inférer et assister à une séance du tribunal. Je n'avais jamais entendu plaider, je suis resté pour entendre Crémieux qui a fort bien parlé. Et cependant, nous lisons dans une notice sur la fondation et le but de la Société des gens de lettres, que le premier procès mémorable engagé par la Société des gens de lettres contre les journaux ayant illicitement reproduit des feuilletons fut plaidé à Rouen par Honoré de Balzac. Le grand romancier s'improvisa l'avocat de ses confrères, et cela par une délégation que lui avait donnée le comité du 11 octobre 1939. Monsieur Honoré de Balzac obtint gain de cause. Signalons en passant l'abus excessif que fait Balzac de la conjonction « car ». Nous l'avions répété souvent 3 ou 4 fois dans le même passage. L'envers de l'histoire contemporaine, Ursule Mirouet, principalement, etc., etc. Et aussi une formule précaution oratoire très fréquente chez Balzac, dont la tournure seule varie, souvent même fort peu. Maintenant, il est nécessaire d'expliquer. Ici, peut-être, est-il nécessaire de faire observer. Ces menus détails sont indispensables pour comprendre. Avant d'aller plus loin, il est inutile de raconter. Oh, peut-être n'est-il pas superflu d'ajouter la cousine bête, Ursule Mirouet, les paysans, les chouans, etc.